Chapitre 15. Clémence, ayant ainsi disposé toutes choses, put alors respirer. Elle avait devant elle un certain temps de tranquillité assurée, pendant lequel elle pourrait aviser. Car, pour avoir amené une rupture entre le marquis et la famille Méraud, et pour avoir éloigné Denise, la partie n'était pas encore gagnée pour elle. Il fallait maintenant décider le marquis à faire en sa faveur un testament tel qu'elle le voulait, et cela n'était pas facile. Veuve, elle eût certainement pu se faire épouser par le marquis. Ce n'eût été qu'un élan de passion à provoquer, et il aimait assez passionnément pour se laisser entraîner jusqu'au mariage. M'aimes-tu? Suis-je bien ta femme? M'aimes-tu assez pour me donner ton nom? Suis-je digne de ce grand témoignage d'amour? Mais non, je ne suis que ta maîtresse. Il eût été fasciné, affolé. Mais le mot testament est plus difficile à amener habilement dans une scène d'amour que le mot mariage. M'aimes-tu, m'estimes-tu assez pour me donner ta fortune? Estime, honneur, passion, fortune vont mal ensemble. Ils se repoussent l'un l'autre et l'esprit, aussi bien que le cœur, se refuse à les confondre. Elle était trop habile pour risquer ce mélange. D'ailleurs, elle avait adopté une attitude qui rendait cette question de testament plus difficile à entamer par elle que par une autre, l'attitude de l'indifférence en matière d'argent et, par suite, celle du désintéressement. 20 fois par jour, depuis qu'elle vivait dans l'intimité du marquis, elle avait proclamé bien haut que l'argent n'était rien pour elle et, en toutes les occasions possibles, elle avait appuyé ce dire par sa façon de tenir sa main ouverte. L'argent glissait entre ses doigts et en Italie, cette terre promise de la gratification, elle s'était fait une véritable réputation de générosité. On la suivait dans les rues de Sorrente et le marquis prenait un plaisir infini à la voir distribuer ses offrandes. Pour elle-même, au contraire, elle ne voulait rien accepter et le marquis avait été obligé de se fâcher pour l'obliger à porter les riches bijoux qu'il avait voulu lui donner. Si beaux qu'ils fussent, elle ne les avait jamais reçus qu'avec une figure chagrine et jamais il n'avait pu lui arracher un signe de contentement ou un mot de remerciement. « Est-ce un témoignage d'amour que vous voulez me donner ?» disait-elle. « Un sourire de vos yeux jette plus d'éclat pour moi que ces diamants. Je vous en prie, mon ami, évitez donc tout ce qui peut ressembler au procédé d'un homme riche qui récompense sa maîtresse du bonheur qu'elle lui donne. C'est précisément dans ce bonheur même qu'est ma récompense, te voir heureux. » Les seules allusions qu'elle avait pu risquer avaient été celles qui s'adressaient à l'avenir, celui d'Arthur et le sien. Nous sommes trop heureux, disait-elle souvent, cela ne peut pas durer éternellement ainsi. Que deviendrais-tu si tu me perdais? Que deviendrais-je si je te perdais moi-même? Mais il n'admettait ni l'une ni l'autre de ces probabilités, ou tout au moins il ne voulait pas en parler, ni surtout qu'on lui en parlât. Quand elle abordait ce sujet, il détournait la conversation de telle sorte qu'il était impossible de la continuer. Cela était surtout sensible depuis son attaque. Avant, il aimait peu à parler de la mort, mais enfin, il supportait qu'on en parlât devant lui. C'était une idée qui lui était désagréable, appliquée aux autres, mais qui, personnellement, ne le touchait pas. Un homme de son âge et de sa force n'avait rien à redouter de la mort. Mais depuis cette attaque, il ne tolérait pas qu'on prononçât même ce mot devant lui et il poussait la chose si loin qu'en arrivant à Rudemont, il avait prié Clémence de répondre pour lui aux billets de faire-part sans les lui communiquer. Cependant, il ne disait pas avoir peur de mourir, mais il semblait qu'il voulût écarter de lui l'idée qu'on doit mourir un jour, comme si en supprimant l'idée, il avait pu en même temps supprimer le fait lui-même. Comment, dans des conditions pareilles, lui parler de testament? Comment l'amener à s'occuper de ce qui devrait se faire quand il ne serait plus de ce monde? Le seul point qu'elle put aborder, c'était sa santé, et par là, elle savait l'avertir d'une façon indirecte qu'il pouvait mourir. À vrai dire, elle ne lui ménageait pas ses avertissements et à chaque instant, comme à propos de tout, elle les lui prodiguait. Pour le froid, pour le chaud, pour le soleil, pour la pluie, pour le vent, pour le boire, pour le manger, pour le sommeil, pour le feu, pour la promenade, pour la lecture, à chaque minute, elle intervenait et lui rappelait, avec la plus tendre sollicitude, qu'il n'était plus l'homme robuste qu'il avait été pendant 40 ans. Et alors, c'était de sa part de douces paroles de consolation, des appels à la confiance, au courage, à l'espoir. Il ne fallait pas se laisser abattre, surtout, il ne fallait pas se laisser effrayer. Les forces reviendraient, la santé se rétablirait. Il se laissait attendrir par ces paroles, mais c'était tout. De testament, il n'en était jamais question. Et cependant, il fallait que maintenant, elle trouvât des moyens pour vaincre ses répugnances et qu'elle l'amenât à lui laisser sa fortune. En Italie, elle avait pu attendre. Désormais, l'attente n'était plus possible. Elle l'avait amené dans le château de ses pères, dans son pays, au milieu des siens. Un testament daté de Rudemont serait inattaquable. D'ailleurs, si elle laissait passer le moment de tranquillité et de solitude qu'elle avait eu tant de peine à s'assurer, elle ne le retrouverait pas sans doute. Ce ne serait pas quand le marquis serait tiraillé entre Denise, Louis et elle qu'elle pourrait s'emparer de sa volonté. Et puis, il pouvait mourir. Combien de temps encore avait-il à vivre? Des années, des mois, des jours? Les médecins lui avaient dit qu'une seconde attaque serait probablement mortelle. Elle eût voulu consulter un avocat, un notaire, sur la forme à donner à ce testament. Car ce qu'elle avait appris par hasard de la captation lui avait inspiré la crainte de la loi. Mais à qui s'adresser? Elle avait espéré, en passant à Paris, pouvoir aller trouver un avocat. Mais le marquis, quoi qu'elle eût pu faire, n'avait pas voulu lui laisser un seul moment de liberté. À Condé, en qui avoir confiance? Tous les gens de loi étaient en relation avec Louis, et puis, pour plus tard, ils pourraient, croyait-elle, devenir des témoins dangereux. Sans doute, elle pouvait consulter le notaire de Saint-Lô, qui avait fait son contrat de mariage, mais cela n'était possible que par lettre, et la règle de sa conduite était de ne pas écrire dans des circonstances critiques. Elle avait donc étudié le code, seule, dans son lit, en prenant furtivement dans la bibliothèque les commentaires qui pouvaient l'éclairer, et pendant plusieurs nuits, elle avait dormi avec ses volumes cachés sous ses couvertures. Lorsque, dans son sommeil, elle heurtait un de ses gros livres, elle se réveillait et reprenait ses combinaisons, au point même où la fatigue les avait interrompues. C'est ainsi qu'elle avait appris qu'il y a 3 sortes de testaments, dont 2 sont entourés de formalités compliquées et dont l'une d'elles est aussi simple que facile. Bien entendu, elle avait repoussé les formes qui exigent le ministère d'un notaire et le concours de plusieurs témoins. Ce n'était point au milieu d'un pareil cortège qu'elle pourrait entraîner Arthur. Et puis, que dirait M. de Carquebute ? Précisément parce qu'elle connaissait tout le pouvoir qu'elle avait sur lui, elle savait que c'était la seule chose qu'elle ne pourrait jamais lui faire accepter. Elle s'était donc arrêtée à la forme holographe qui, pour être valable, dit la loi, n'a besoin que d'être écrite en entier, datée et signée de la main du testateur, sans être assujettie à aucune autre formalité. 2 lignes, « Je donne tout ce que je possède à Madame Clémence Beaujonnier », la date, la signature et l'héritage d'Arthur lui appartenaient. Et elle n'obtiendrait pas ces quelques mots de l'homme qu'elle tenait à ses pieds, qu'elle faisait pleurer d'un froncement de sourcils, qu'elle rendait heureux à mourir de joie quand elle voulait qu'il fût heureux. Laquelle de ces 2 puissances devait-elle employer pour lui mettre la plume à la main? La souffrance? Le bonheur? Il y avait un artifice dont elle avait déjà usé plusieurs fois et qui toujours avait produit l'effet qu'elle en attendait, son départ. Devait-elle une fois encore jouer cette comédie? Dans les efforts qu'il ferait pour la retenir, dans ses supplications, dans ses promesses, dans ses engagements, irait-il jusqu'au testament? Au contraire, devait-elle procéder par le bonheur? Dans un accès de passion, écrirait-il les 2 lignes qu'elle désirait si ardemment? pourrait-elle les lui souffler? Et s'il mourait d'une douleur trop violente ou d'un bonheur trop intense? N'étant point sous le coup d'une nécessité immédiate, elle se donna quelques jours pour combiner sagement son plan et ne rien livrer au hasard. Une fois son parti pris, elle marcherait droit au but et rien ne l'arrêterait. Si ce n'était point par le bonheur qu'elle arracherait ces deux lignes, ce serait par la souffrance, l'une succédant à l'autre. Entre ses mains, qui, alternativement, passeraient de la caresse à la torture, il faudrait bien qu'il cédât. Mais, au moment où elle allait soumettre le marquis à cette pression, qui devait sûrement anéantir en lui toute volonté, elle fut arrêtée par une nouvelle qui vint la surprendre étrangement. Monsieur de Carquebut, rentrant de Condé, lui apprit en causant que sa sœur, Madame Méraud, était depuis quelques jours aux eaux de Bagnoles. Des gens qui crèvent de faim se donnaient le genre d'aller aux eaux, ça fait pitié. Je vais demander à Arthur si c'est lui qui paie ce déplacement. Gardez-vous de parler de cela au marquis. Parce que j'ai mes raisons, vous les connaîtrez plus tard.